Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'Atelier des médias. Une fois n'est pas coutume, nous consacrons l'émission de ce jour aux réseaux sociaux, plus précisément au caractère monstrueux de ces univers, ces outils dont nous avons vécu pour beaucoup la naissance et dont nous observons maintenant l'évolution heureuse ou malheureuse.
Les monstres cachés dans les placards attendent pour surgir.
On discute gentiment cuisine sur un forum. Le troll s'invite dans le débat en affirmant que ce n'est pas une patate, mais un coquillage qui est sur la photo.
C'est la dénonciation des comportements sexistes via entre autres le hashtag, le fameux hashtag balance ton porc.
Devant les sénateurs, Mark Zuckerberg s'emploie donc à convaincre. Il commence par admettre que la conception du rôle social de Facebook a changé et présente ses excuses.
Il est clair que nous n'avons pas fait assez pour empêcher ces outils de faire du mal. Cela inclut les fausses informations et les discours haineux.
Une adolescente namuroise s'est suicidée et son entourage a découvert qu'elle était harcelée via un réseau social sur Internet.
Maintenant que l'image est un nouveau langage, eh bien c'est aussi un nouvel enjeu pour la recherche et pour les médias que de nous pencher de façon un peu plus attentive et d'essayer de répondre aux questions tout à fait redoutables sur le plan de l'économie culturelle que nous posent ces nouveaux contenus dont finalement nous ignorons beaucoup plus que nous ne le savons.
L'Atelier des médias, Ziad Malouf.
Bonjour Pauline Escande-Gauquier.
Bonjour.
Vous êtes sémiologue, maître de conférence à Paris-Sorbonne-CELSA, c'est-à-dire au CELSA, c'est ça ?
Oui, ouais. Exactement.
Bonjour Bertrand Névin.
Bonjour.
Vous êtes théoricien de l'art et des médias, chercheur associé au laboratoire AIAC, ouais. Ça se prononce comme ça. Donc c'est art des images et art contemporain.
Tout à fait.
Et vous m'avez dit hors micro que vous étiez professeur d'art plastique, c'est
aussi,
ça ?
Oui, oui, je fais le grand écart entre l'université et le collège.
Monstre au pluriel 2.0, l'autre visage des réseaux sociaux. C'est donc le livre que vous signez tous les deux. Qu'est-ce que c'est tout d'abord l'intention de cet ouvrage, Bertrand ?
Eh bien, l'intention, c'était de montrer que les réseaux, qui a priori sont l'univers du like et du petit cœur rouge, des followers, des amis qui nous suivent et qui nous veulent du bien, ça pouvait aussi être une sorte de théâtre, une sorte de tartare de pratiques et d'utilisateurs beaucoup moins intentionnés. Et en fait, c'est venu d'une discussion avec Pauline, où on avait chacun notre vision un peu monstrueuse des réseaux. Pauline, elle était... Enfin, elle pourrait le dire tout à l'heure, mais disons qu'il y a une convergence entre, d'une part, les réseaux en tant que producteurs de contenu monstrueux, donc le bashing, le harcèlement, les trolls.
Alors juste, on va expliquer les termes qui sont peut-être les moins connus. Bashing, c'est quand on s'en prend à quelqu'un, c'est ça quand,
oui, voilà. C'est une sorte de harcèlement numérique.
Et les trolls, ce sont des personnages malfaisants, on va dire. Hein,
en fait, les trolls, c'est tout simplement... des personnes qui, à visage couvert, vont saper le...
Visage couvert ou découvert, hein, parfois.
Oui, voilà, mais souvent, c'est souvent... Ouais. Sous
pseudonyme, voilà. Donc pas anonyme, mais sous pseudonyme.
C'est ça, ouais. Et en fait, le principe, c'est... Alors, ça peut passer par de l'insulte, ça peut passer par des propos injurieux ou calomnieux, mais c'est le principe au cœur du troll, c'est de saper la bonne discussion, le bon échange dans ces réseaux sociaux. Donc c'est
venir mettre
de
un petit grain de sable malfaisant dans une conversation et faire dériver en général en quelque chose qui était bon enfant, en engueulade ou en quelque chose qui va nulle part. Quoi,
tout à fait, voilà. Ouais. Et donc, il y avait cette part de réseau en tant que producteur de contenu monstrueux. Et puis, il y avait aussi une autre dimension monstrueuse qui, là, touchait plus l'utilisateur que nous sommes tous. Et on s'est rendu compte que nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs 2.0, on était un petit peu des monstres à notre niveau parce qu'on était tout le temps entre réel et virtuel. D'ailleurs, ce terme de virtuel est de plus en plus dépassé parce que le réel s'invite dans le virtuel.
Le réel ne s'est jamais opposé au virtuel, hein, d'ailleurs. Hein,
En fait, le virtuel, à l'origine, c'est tout ce qui peut être possible et qui n'est pas encore réalisé. Et puis après, dans le langage commun, c'est devenu tout ce qui était numérique, digital. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, on faisait encore la part des choses entre ce qui est vraiment devant moi et ce qui est virtuel.
Pour reprendre un peu le fil du livre, dans l'introduction, vous expliquez assez brièvement que l'Internet, le web sont arrivés avec des rêves de démocratisation, de liberté, d'émancipation, de communication sans frontières, etc. Ce qui existe, hein, ce qui est vrai, ce qui est en partie vrai, mais que
tout de suite ou en tout cas avec le temps, se sont installés aussi des dérives ou des travers ou des côtés plus négatifs. Donc vous l'avez rappelé, les trolls, les rumeurs, la désinformation, la colonisation de l'espace privé avec les notifications notamment, etc. Et que donc il y avait peut-être deux visages à ces réseaux, au réseau Internet. Un visage positif, un visage utile dont on se sert et qui nous accompagne au quotidien. Et un visage que vous appelez monstrueux. Et vous rappelez d'ailleurs que monstrueux, ça vient de montrer. Donc un visage monstrueux qui montre peut-être ce que pourrait devenir le monde ou ce qu'il ne doit pas être. C'est ça, Pauline ?
Alors effectivement, l'étymologie de mon, c'est monstrum. Qui signifie ce qui montre. Donc l'objectif du monstre, c'est vraiment celui qui alerte. Voilà, c'est un vecteur d'avertissement. Et pour nous, ce qui était important, bah, justement, c'est de tirer un peu un signal d'alarme, ouais. Voilà, par rapport à tous ces débordements sur lesquels on commence à mettre des noms.
Effectivement. Ouais, mais en même temps, vous tirez une sonnette d'alarme alors que tout le monde commence à être conscient quand même de ces dangers, de ces dérives. Il y a 3-4 ans, peut-être qu'on était encore dans quelque chose d'un peu rêvé et on voyait vraiment beaucoup plus le positif de Facebook et de Twitter et de choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est quand même assez conscient que même si ce sont des outils qu'on utilise chaque jour, ils ont un côté négatif, un côté dangereux dont on parle presque sans cesse maintenant.
Oui, alors en fait, c'est effectivement, c'est pas que faire un état des lieux, c'est aussi expliquer pourquoi on en est arrivé là. C'est ce que cherche à faire l'ouvrage. Et également, nous, on est très engagés sur le fait que l'éducation aux médias, aux réseaux sociaux est quelque chose de très important aujourd'hui, que ça touche le public très jeune que sont les enfants, qui rentrent de plus en plus jeunes voilà, sur le monde virtuel, cet espace où ils rentrent un peu de manière sauvage, finalement, parce qu'ils ne sont pas éduqués, pas forcément accompagnés, mais aussi les adultes qui doivent réaliser en fait ce qui se passe sur les réseaux sociaux et aller vers de meilleures pratiques.
Pour tenter d'expliquer, dans l'introduction, vous parlez de ce qu'on appelle les sociétés liquides. J'aime bien cette image, peut-être que vous pouvez expliciter. Donc les sociétés liquides et puis la société envisagée un peu comme une noix de coco par opposition à la société envisagée comme un avocat. Donc cette idée que, vous allez expliquer Pauline, les choses sont peut-être... C'est difficile en fait aujourd'hui de s'appuyer sur quelque chose. C'est-à-dire qu'on a grandi, pour les plus âgés d'entre nous, dans un monde où il y avait des choses assez établies, assez fermes, donc la noix de coco. Et aujourd'hui, ça a complètement changé et c'est beaucoup plus difficile de s'asseoir et d'asseoir notre pensée, notre manière de voir le monde sur quelque chose de solide.
Effectivement, alors derrière ces termes, il y a un philosophe qui s'appelle Zygmunt Bauman et qui a défini la société du fluide, du liquide, en référence à ce monde virtuel du flux. On parle aussi des flux des réseaux sociaux. Et aussi, ce qu'il a voulu montrer, c'est que pourquoi il parlait d'une noix de coco pour les anciennes sociétés, ce qu'on appelait le monde moderne, parce que maintenant on est passé à une société post-moderne, qui est cette société liquide. Il disait que finalement, avant, il y avait des grands récits fédérateurs pour le collectif, comme la religion, la confiance dans l'État, la confiance dans le politique, et qui faisaient que les gens, à un moment donné, dépassaient, je dirais, les relations inter-individuelles pour être engagés dans le collectif. Tout cela a éclaté, et aujourd'hui, il y a un repli vers les communautarismes, sur l'espace réel, mais également sur l'espace virtuel. On parle de communauté sur l'espace virtuel et un espèce de changement très rapide en termes d'identité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'engagement, il se fait aussi sur des causes, je dirais, moins transcendantales. On peut dire le terme. D'ailleurs, c'est une des conclusions de notre livre, peut-être sur laquelle reviendra Bertrand. Et du coup, vers des engagements, je dirais, plus de la vie ordinaire. Par exemple, je suis très engagée comme fan soit d'un club de foot, soit d'une star, etc. Donc voilà, ça faisait allusion à ça. Et au fait que ce désengagement sur l'agora, sur l'espace public, vers des sphères plus communautaires ou intimes, fait que ça change aussi le rapport à l'autre, à soi et au monde, et aux préoccupations, en fait, et la manière dont les gens se parlent les uns les autres.
Si on revient sur cette image du monstre, une des choses que vous expliquez, c'est que historiquement, si on devait trouver un rôle au monstre ou une place dans la société, c'était quelque chose d'assez rare, quelque chose d'assez exceptionnel, bon, c'est vrai, quelque chose qui par définition n'était pas commun. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, ce que vous dites vous, c'est que le monstre 2.0 est là en permanence, il est là tout le temps et qu'en plus il a une tendance à se banaliser.
Ce qui est intéressant, c'est que les monstres, donc encore une fois, ça provient de deux racines latines qui sont monstrum et monere, et qui toutes les deux indiquent la notion de montrer, de se montrer, enfin de s'imposer au regard par cette hors norme, ce dépassement de la norme, et puis le fait d'avertir. Donc il y a beaucoup de récits dans lesquels le monstre, quand il naît, est évocateur, ou en tout cas est censé avertir la cité d'un malheur d'un fait un peu spécial, un peu hors norme qui devrait arriver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, alors chez les Grecs, on les mettait soigneusement à l'écart pour qu'ils portent pas trop atteinte à l'idée de beauté qui devait sous-tendre l'humanité et le monde des dieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, il y a une sorte de fascination pour le monstre, pour cette figure, encore une fois, qui montrait que l'humain, une sorte de dépassement de l'humain vers l'animal, vers la bête. Donc cette humanité, quelque part, on pourrait être dans la liquidité de Zygmunt Bauman avant l'heure, parce que c'est une sorte d'incarnation d'une humanité qui se mue avec l'autre que soi, avec son altérité. Et ce qui est intéressant, c'est que au 19e siècle, il a ensuite il est devenu un sujet d'étude, donc scientifique. Il est devenu un sujet de construction de sa propre norme, avec ces foires dans lesquelles on les montrait, on faisait des spectacles, on les montrait sur des estrades.
Les monstres, les bêtes de foire.
Voilà, ça. Et c'était une façon de se prouver, un petit peu comme les zoos humains, quoi, où on montrait les personnes, les indigènes qui venaient de d'autres cultures, d'autres continents. C'était une façon de dire, là, lui, il est comme ça, il est monstrueux. Et donc, du coup, en négatif, ça me permet de moi construire ma norme et ce que doit être l'être humain. Et ce qui est intéressant, c'est que au cours du XXe siècle, parce qu'il y a eu une prise de conscience de ces personnes qui étaient humaines, qui avaient des sentiments, qui avaient une humanité en eux, et qui étaient stigmatisées par une bien-pensance, par un désir de normes un peu trop cadenassées, ou un peu trop excluant de l'autre, on s'est rendu compte que il y a eu un autre processus, un autre mouvement qui a été de revaloriser le monstre. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on étudie dans le cinéma, c'est assez flagrant, dans les séries aussi actuellement, il y a un renversement du monstre qui ne fait plus peur, qui n'est plus cette créature un peu étrange qu'on fuit, qu'on enferme dans un conte ou dans un flacon de formol ou sur une scène de théâtre. Mais à la limite, c'est quelque chose qui devient désirable. Et limite, c'est l'être humain qui devient lui-même monstrueux et le monstre qui devient humain. On a donné l'exemple de Elephant Man, par exemple, qui est un très bel exemple. C'est lui qui physiquement est monstrueux, parce qu'encore une fois, cet alliage entre un être humain et puis des malformations qui leur font penser à un éléphant. Ceux qui représentent la société, la norme sociétale, la cité, eux deviennent monstrueux par leur comportement. Et donc, le monstrueux est devenu non plus simplement quelque chose de physique, mais quelque chose de comportemental. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez plusieurs séries et plusieurs livres pour enfants, par exemple, mais on va rester dans le cadre des séries, le monstre est souvent celui qui maintenant fait rire, celui qui est garant d'humanité, celui qui est presque qui devient le héros du film et de la fiction. Et je pense que ce retournement, cette valorisation du monstre n'est pas étrangère au fait que maintenant n'importe qui peut avoir des comportements monstrueux sur les réseaux, sur Internet, sans se sentir à limite coupable. C'est presque maintenant banalisé, normalisé d'avoir des penchants monstrueux, des attraits pour le glauque, pour le sordide, pour l'affreux, pour l'infâme, des penchants à insulter, à se moquer, à se repaître de contenus choquants et qui auparavant on aurait caché, mais là maintenant c'est devenu normal. Et c'est ce basculement qu'on a trouvé intéressant d'interroger dans le livre. C'est pourquoi est-ce que aujourd'hui au XXIe siècle ce n'est plus dérangeant et limite ça s'assume le fait d'être un monstre. Try to
staying confused, looking for a sign. All the popular kids at school were always super mean to me and made me cry. I never knew what I should do, so I just walked away and said fuck off and die. They said that I'm weird, that I'm ugly, and that I suck. I knew that one day all those kids would grow up to be boring as fuck.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ce n'est plus dérangeant et limite ça s'assume le fait d'être un monstre ?
RFI.
Ce livre est consacré à un certain type de monstruosité que vous appelez monstre au pluriel 2.0. Et le propos ou l'ambition de l'ouvrage, c'est d'essayer de décrire les caractéristiques de ces monstres, parce qu'il y en a plusieurs, vous avez mis un S. Le premier chapitre est consacré à la manière dont l'image devient monstrueuse, dont la place de l'image dans nos quotidiens change et donc devient potentiellement monstrueuse. Est-ce que vous pouvez expliciter, Pauline ?
Alors oui, effectivement, en fait, aujourd'hui, c'est presque un truisme de dire qu'on est dans une société des écrans où l'image est extrêmement présente, est devenue même ce qu'on pourrait qualifier un langage vernaculaire, c'est-à-dire un langage universel accessible par tous. Et du coup, il y a énormément d'applications dédiées à l'image qui se sont développées pour permettre aux gens de communiquer et qui sont extrêmement usitées, notamment par les plus jeunes comme Instagram, Snapchat et même, je dirais, les médias d'information, puisque tous les grands médias sont arrivés aujourd'hui sur Snapchat et voilà, qui communiquent avant tout par l'image avec accompagné du texte. Nous, ce qu'on voulait montrer, c'est que cette prolifération, cette massification des images via les médias de masse, mais aussi via les réseaux sociaux, fait que aujourd'hui, pour qu'une image puisse être vue, regardée, il ne suffit plus qu'elle soit seulement choquante, il faut qu'elle sidère. Voilà, c'est-à-dire qu'elle accroche le regard. Et comment accrocher le regard ? C'est en provoquant quelque chose qui fait c'est hors norme, ça sort de ce qu'on voit continuellement circuler, d'où le bashing. La fake news.
Donc le bashing, toujours, j'essaye
alors
de
là,
faire
c'est
une
pas
émission
image,
sans
c'est,
anglicisme
oui,
au
pardon,
maximum.
D'où l'insulte. Alors évidemment, on parle d'image, mais aussi il y a l'image du texte, parce que là, c'est du texte, mais qui est visible et qui saute à la figure. Et puis, tous les propos haineux dont sont victimes beaucoup de personnes, notamment les notoriétés.
En 2016, en février, l'Atelier des médias a consacré une émission sur ce que nous avons appelé à l'époque, hein, c'était un néologisme, l'adosphère, ou comment les adolescents gèrent leur présence sur l'Internet, dans le web. Et nous avions recueilli plusieurs témoignages, dont celui-ci que je vous propose d'écouter.
Bonjour, je m'appelle Lola Rose Grief, j'ai 13 ans, je suis en quatrième. Moi, en fait, par exemple sur Instagram, je préfère être en privé comme ça. Si des gens veulent s'abonner à moi, je peux les refuser aussi si je ne les connais pas. Enfin, pas que sur Instagram, sur toutes les applications comme ça, dans ce genre. Et moi, j'y vais pour voir un peu les photos de mes amis, ce qu'ils sont en train de faire, mais tout ça. Et quelquefois, je poste des photos de là où je suis, ce que je fais.
Quel genre de photos tu postes, toi, sur Instagram ?
Déjà, je vais poster des photos où je trouve pas déjà que je suis moche. Sinon, je posterai pas. Je suis pas du genre à poster des photos que de moi. J'aime pas trop ça. J'aime bien poster des photos quand je suis avec ma famille, mes amis, mes cousins, ou sinon des photos des endroits que j'ai pris en vacances, que je trouve jolis, des choses comme ça.
Et qu'est-ce qui te fait choisir ces photos ? Pourquoi tu décides de les poster, de les partager ?
Déjà, je pense à toutes les personnes qui sont abonnées à moi. Je sais qu'il y a des personnes que j'aimerais pas trop qui voient ces photos. Donc ça aussi, ça joue dans la photo que je vais choisir. Si c'est des amis proches, je m'en fiche un peu de la photo que je mets, mais il y a quand même d'autres personnes. Donc il y a des photos que j'ai pas trop envie qu'ils voient. Comme ça, donc je réfléchis quand même avant de mettre une photo.
Alors, est-ce que tu peux me montrer justement ton compte Instagram pour qu'on le voit ensemble?
Oui.
Alors là, tu prends ton téléphone. Donc là, on voit ta photo de profil, qui d'ailleurs, on te voit dans c'est une photo de toi de oui, face, oui. C'est ça? C'est un selfie? Mm-hmm. Une photo que tu as prise de toi-même?
Oui, c'est une photo qui date d'il n'y a pas très longtemps. J'étais en train de tirer la langue.
D'accord. On peut voir que tu as publié 64 images, que tu as 243 abonnés, donc personnes qui te suivent, et 269 abonnements toi-même.
Voilà, j'actualise la page. Et
Là, tu es sur la page d'accueil hein, de l'application.
Oui, et on peut voir toutes les photos récentes que les gens postent. Par exemple, là, c'est il y a 17 minutes ou il y a 16 minutes. Et si je descends plus, c'est il y a plus longtemps. Donc, je peux liker la photo, comme ici, ce que j'ai fait.
Liker, ça veut dire aimer, hein, oui. Apprécier, dire qu'on apprécie.
Mm-hmm. Ou sinon, je peux mettre un commentaire si j'appuie là sur la petite bulle.
Qu'est-ce que tu mets comme commentaire en général sur quand tu vois une photo d'une amie qui s'est prise en photo, un selfie? Qu'est-ce que tu mets comme genre de commentaire?
Si je mets un commentaire, souvent je mets des smileys, plutôt des cœurs, ou si par exemple c'est pendant les vacances et que je ne l'ai pas vu depuis longtemps, je mets « tu me manques » ou des choses comme ça, ou « t'es jolie » si je la trouve jolie sur la photo et tout ça.
Et toi alors, tu peux montrer toi des photos mm-hmm. que tu as postées toi. Donc là on va sur ta page, on peut voir toutes les images que tu as postées. Mm-hmm. Donc là c'est une petite vidéo de personnes qui dansent. Là c'est une photo de toi avec ta petite sœur.
Non, avec ma cousine.
Voilà, donc tu fais un peu une bouche en canard aussi. C'est un selfie à deux personnes.
Oui, et parce que j'aimais bien cette photo, je trouvais qu'elle était marrante. Et c'était pour mettre un petit commentaire, pour dire qu'on attendait pour Noël. C'est pour ça que sur la photo, on fait un peu une tête bizarre, pour dire qu'on attend Noël avec impatience.
Tu as eu 35 j'aime. C'est important ça, d'avoir des personnes qui disent qu'ils aiment ta photo, surtout si c'est une photo de toi.
Oui, quand même, un peu. C'est un peu important. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'amis qui ont aimé la photo. Mais enfin voilà, et en commentaire, par exemple, j'ai eu des smileys.
Donc là, il y a une amie qui s'appelle Lou qui te met des smileys avec des grands cœurs dans les yeux. Une amie qui s'appelle Sarah qui fait pareil. Toi qui réponds aussi avec des smileys avec des petits cœurs, c'est ça? Et tu mentionnes la personne qui t'a mis un cœur. Et quand tu postes une photo comme ça, tu vas regarder ensuite si les personnes aiment, si les personnes commentent, c'est quelque chose d'important, tu regardes régulièrement, comment ça se passe?
Oui, après je vais voir, quand je rentre dans l'application, d'abord je vais voir si on a aimé ma photo, je regarde combien de j'aime j'ai eu et de qui aussi surtout, qui est-ce qui a aimé mes photos, et donc voilà. Et aussi il y a souvent des gens, quand quelqu'un aime la photo, ils se disent « ah bah tiens, je vais aller voir sur son compte, moi aussi je vais lui aimer une photo ». Mais c'est vrai, quelquefois, quand j'ai pas beaucoup de j'aime, bon, ça me blesse un petit peu. Mais bon, en même temps, il y a des personnes qui ont pas envie d'aimer ou de commenter, qui ont Instagram pour regarder, ils attendent pas grand-chose en retour.
Toi aussi, j'imagine, tu dois te sentir parfois obligé d'aimer ou de commenter des photos.
Oui, moi, quelquefois, je le fais parce que... je me dis que déjà j'aime bien la photo, mais bon, même si j'aime pas trop, je me sens un peu dans l'obligation de le faire pour que cette personne elle soit contente, qu'elle ait plus de j'aime, des choses comme ça.
C'était un témoignage de Lola Rose, 13 ans en 2016, donc 15 ans aujourd'hui, recueilli par l'Atelier des médias dans le cadre d'une série qui s'appelait Bienvenue en Adosphère. Il y a énormément de choses, le témoignage est assez long dans ce témoignage. Il y a, ce que je retiens en tout cas, c'est d'abord une prudence des tout jeunes sur les réseaux sociaux. Elles n'acceptent pas n'importe qui, etc. Une bienveillance. Parce que donc on se met des commentaires gentils, on essaye de penser aux amis, on regarde, voilà, on a des cœurs. J'ai pas détaillé, mais en tout cas dans le fil de conversation, c'était ma vie, mon amour, ma chérie, systématiquement. Il y a aussi évidemment une sociabilité différente hein, qu'on perçoit avec de nouveaux codes, de nouvelles valeurs, de nouvelles attentes qui sont bien différentes de celles qu'on pouvait avoir avant les relations via réseaux sociaux. Une omniprésence évidemment de l'image, hein, ce que vous appelez vous l'hyperimagisme, donc voilà. Des images en permanence, 17 minutes, 2 minutes, il faut regarder, liker, etc. Et j'imagine que vous, vous retenez d'autres choses ou peut-être que vous souhaitez déjà commenter ces différentes choses.
Moi, j'ai remarqué une petite chose, c'est cette conscience déjà, cette maîtrise de son image. Ça m'a fait penser à une élève que j'ai au collège qui un jour, me parlant des images qu'elle postait d'elle-même, m'a exprimé son souci de faire de belles images et son désir de maîtriser déjà à l'origine l'image qu'on allait prendre d'elle. Et pourquoi ce souci ? Parce qu'elle m'a dit, on sait très bien que en gros, les images vont circuler, on ne va plus maîtriser leur destination, leur destinataire, la façon dont les gens vont les percevoir.
Enfin, on peut ne pas maîtriser, mais on peut aussi plus ou moins maîtriser. C'est-à-dire que là, par exemple, Lola Rose qui témoignait, son compte n'est pas accessible à tout le monde. Donc, il n'est accessible qu'à des personnes de confiance qui, évidemment, peuvent faire une capture d'écran d'une de ses photos et la repartager à l'extérieur. Mais il y a quand même une décision et une maîtrise à minima, quoi.
Oui, mais c'est tout le caractère dangereux et ambigu et spécial de ce que Serge Tisseron a nommé l'extimité, cette intimité qui devient publique, qui devient partageable, et qui, même si je la prédestine à s'afficher sur le téléphone, sur le mur d'un ami, je ne peux pas contrôler la personne avec laquelle cet ami va voir l'image, la possibilité que, comme vous l'avez dit, que la personne screen l'image et la diffuse autrement. Donc il y a quand même une diffusion publique de cette image de soi. Et moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que cette adolescente avait dit « Voilà, nous, on peut plus se permettre de faire une image ratée. » Et cette conscience de l'image de soi, de vivre déjà dans l'image et de devoir maîtriser, ça m'avait beaucoup marqué. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est il y aurait tellement de choses à dire. Mais si on revient dans le cadre des Monstres 2.0, c'est ce vivre à travers l'image. Et on en a beaucoup parlé, c'est ce devoir de partager, ce devoir de se faire image et d'imager ce qu'on voit. Du coup, ça a passé par le dérisoire, par le grotesque, par le drôle, parce que on n'a pas toujours des choses passionnantes à montrer, à dire, à partager, mais il faut quand même le partager. Et c'est ce qui fait que ces réseaux comme Snapchat, par exemple, ont une autre dimension monstrueuse, que vous l'avez très bien, très bien marqué. Il y a un S à monstre, donc il y a plusieurs, ce monstre ou ces monstres ont plusieurs visages, plusieurs aspects, mais un de leurs aspects, c'est de s'immiscer dans notre quotidien, dans chaque strate, dans chaque seconde de notre quotidien, et de faire de nous, alors c'est le philosophe Maurizio Ferraris qui a bien dit ça, qu'on est tous mobilisés et on a tous ce devoir de partager, de dire à l'autre. Et ce devoir de partager, forcément, ça passe par la production d'images qui, avant, n'auraient pas eu d'utilité d'être faites, mais qui maintenant le sont.
Monstre 2.0, je le rappelle, c'est le titre de votre livre, Bertrand Névin et Pauline Escande-Gauquier. J'ai souhaité qu'on écoute ce témoignage aussi, parce que je le trouve assez apaisé. Il y a quelque chose dans votre... Donc, Monstre 2.0, vous voulez parler du côté monstrueux qui existe hein, des réseaux sociaux, et alerter sur... Donc, vous avez mentionné l'extimité, ses dangers, les dangers, etc. Mais il n'y a pas que du danger. On peut aussi aborder ces choses-là de manière apaisée, contrôlée. Ça fait partie de l'apprentissage des plus jeunes aujourd'hui. Et il y a toujours eu des dangers dans l'apprentissage. Hein. Donc, peut-être qu'ils sont différents, peut-être qu'ils sont... d'une nature particulière, peut-être qu'ils sont plus présents, je ne sais pas. Mais c'était aussi ça que je souhaitais exprimer à travers en réécoutant ce témoignage, c'est qu'on peut être aussi apaisé et aborder ces choses-là sans toujours dire c'est dangereux et ce sont des monstres. Non, Pauline ?
Vous avez tout à fait raison. Merci. Et d'ailleurs, ce que cherche à montrer ce livre, c'est l'autre visage des réseaux sociaux.
Ouais,
et voilà, donc c'est un sous-titre qui est quand même important parce qu'effectivement, la plupart des usages quotidien sur les réseaux sociaux, ce sont des usages plutôt bon enfant, plutôt sympathiques, d'échanges, de partage, de moments plus ou moins intimes et importants pour les individus. Donc c'est vraiment cette logique du partage, de l'échange. Mais nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est notamment pour les plus jeunes, le fait qu'il faut qu'il y ait un accompagnement et une éducation à l'usage de ces médias, parce qu'on a fait des enquêtes auprès des publics collégiens de Bertrand, et on s'est rendu compte que derrière ce terme harcèlement, c'était assez flou pour eux. C'est-à-dire que quand il y en a...
C'est assez flou pour tout le monde, hein, soit dit en passant. Hein.
Voilà, c'est quoi le cyberharcèlement? C'est-à-dire quand il y en a un qui s'amuse à faire, à prendre l'identité d'un autre camarade pour insulter un autre camarade et que les autres l'aient. Eh bien voilà, le fait d'usurper une identité, on leur a dit, mais en fait, c'est quelque chose qui, dans le monde des adultes, voilà, est condamnable et qui tombe sous le joug de la loi. Donc en fait, c'est plutôt cet accompagnement, cette éducation, en disant, bah, tu vois, il y a un certain nombre de règles, de lois qui existent sur le monde réel et que tu dois continuer à appliquer sur le monde virtuel. Parce qu'il y a un éclatement des frontières, c'est ce qu'on a pu constater, entre ce qu'il disait le monde virtuel et... est réel, ce dont parlait Bertrand, mais aussi entre le moi et le surmoi. C'est-à-dire que du fait d'être caché derrière son écran, parfois un avatar ou en usurpant l'identité d'un autre camarade, eh bien, il y a une forme de désinhibition qui amène à un processus d'insulte plus rapide.
De psychologie, le moi et le surmoi. Hein. Donc il faut expliquer.
Alors le moi, c'est-à-dire, c'est soi-même, c'est la conscience, et le surmoi, c'est l'espèce de forme de censure qu'on peut avoir. Pour s'empêcher de... d'insulter, je m'empêche de frapper mon camarade, etc.
Si on revient à l'image, donc ce monstre des réseaux sociaux, vous décrivez donc les différents caractères monstrueux de l'image dans les réseaux sociaux. Donc vous parlez de l'hyperimagisme, on l'a bien compris, et je pense que tout le monde est d'accord, donc cette omniprésence de l'image. Vous parlez du fait qu'elle doit sidérer, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Alors on n'a pas cité d'exemple, mais on peut parler évidemment de Daesh, l'utilisation d'images par Daesh. Vous parlez aussi de l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie. Vous donnez plein d'exemples d'images qui ont sidéré. Vous parlez aussi dans l'introduction de l'image d'Aylan Kurdi en disant que bon, c'était peut-être une image nécessaire, mais qu'elle a engendré de la monstruosité dans les commentaires, etc. Vous parlez aussi, encore un autre épisode, du policier tué dans l'épisode de l'attaque contre Charlie Hebdo, donc tué dans un compte qu'on a pu tous voir, beaucoup de gens ont vu dans des vidéos amateurs. Et la troisième caractéristique donc de cette monstruosité des images, c'est le direct, le live, et la possibilité de voir en direct toutes sortes de choses, ou en très léger différé parfois. Et vous citez un exemple qui m'a marqué, que je ne connaissais pas, qui remonte à mai 2016. On va écouter, il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Océane.
Alors, j'attends tout à l'heure, il est 12, il est encore un peu trop tôt. Je reste en fait en live en attendant, mais il est trop tôt. Bon, bref, du coup, je vais réexpliquer ce que j'ai dit avant. La vidéo que je vais faire là, que je suis en train de filmer, n'est pas faite pour faire le buzz. Elle est faite pour faire réagir les gens, pour ouvrir les esprits et rien d'autre en fait.
Je précise que donc, c'est une jeune fille qui est en train de parler, qui s'appelle Océane, et elle répond à des commentaires sur Periscope. Donc parfois, elle répond à des questions qu'on n'entend pas, mais qu'elle induit dans ses réponses.
Tu vas nous expliquer quoi? Je vous dirai que tout à l'heure, vous verrez que tout à l'heure. Je vous expliquerai quelque chose par rapport à des gens et vous verrez tout à l'heure.
On va faire une petite explication de texte. Je n'ai pas détaillé à dessein, mais donc il s'agit d'une vidéo de mai 2016 qu'on peut trouver donc sur YouTube aujourd'hui, mais qui avait été filmée sur Periscope, donc diffusée en direct par cette jeune fille dont le prénom est Océane. Et en fait, c'est une très très longue introduction où elle parle de choses et d'autres sans jamais dire ce qu'elle est en train de faire, mais elle avait posté un titre qui rendait curieux les personnes qui pouvaient regarder cette vidéo. Et en fait, son intention, ce qu'elle a fait ce jour-là, c'est qu'elle s'est suicidée en se jetant sous un train, pour en expliquant qu'elle avait été traumatisée par un viol, en indiquant qui l'avait violée, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez traumatisant. Il y a eu toutes sortes de vidéos par la suite sur YouTube, de jeunes vidéastes de YouTube qui expliquaient qu'ils avaient été très choqués, etc., qui commentaient ce qu'avait dit Océane. Donc il y a eu plein de faits divers de ce type-là, mais bon, c'était un des premiers en utilisant cet outil Periscope, donc qui permet de faire des vidéos en direct. Et vous mentionnez ça, je vais peut-être lire un petit passage de votre livre qui suit cet exemple, et puis vous pourrez commenter. Le monstre a trouvé dans le direct son format idéal pour exprimer ses excès pathogènes. Dans cette dynamique de l'extrême, le spectacle de la violence et du criminel n'a plus d'autre finalité que lui-même. La violence ce n'est plus cathartique, comme dans un film de Quentin Tarantino ou de Martin Scorsese. L'image distance de la fiction s'efface désormais au profit de l'image immersion de la réalité. C'est donc dans Monstre au pluriel 2.0. Pauline.
Oui, effectivement, c'est extrêmement tragique de réentendre, je dirais, ces commentaires presque du quotidien, banalisés, avant un acte qui est un acte
d'une
violence extrême, qui est celui d'un suicide et surtout d'une détresse extrême. Et comment elle met en scène, en fait, par un... Alors, je sais que vous n'aimez pas les anglicismes, mais ce qu'on appelle un teasing, c'est-à-dire une mise en intrigue de l'acte à venir en ne disant pas le nom. Et réentendre... voilà, c'est...
Là, ce sont des extraits que j'ai mis
en quelques minutes. C'est vrai que c'est bouleversant.
Est-ce qu'on peut trouver, il y a plus d'une heure de vidéos comme ça, avec ce type de commentaires.
Alors, cette logique du direct, effectivement, normalement, elle est usitée, je dirais, pour des stratégies, je dirais, qui sont celles de Daesh, par exemple, qui vont mettre en scène la barbarie en direct pour essayer de provoquer la terreur. Et là, on s'est rendu compte, en travaillant avec Bertrand, que, eh bien, il y avait d'autres espaces où le direct était exploité pour faire des actes morbides, mais aussi une mise en scène de la mort de l'autre, mais aussi de soi, via le suicide. Et nous, ce qui nous a interpellés, c'est le calme apparent de cette jeune fille qui parle de ce qui est à venir, et puis le fait qu'elle passe vraiment à l'acte. Voilà. Et pourquoi on parle d'immersion de l'horreur dans la réalité, c'est parce que le direct fait qu'il n'y a plus cette mise à distance possible. C'est-à-dire qu'on est à la fois spectateur et acteur de l'événement qu'on est en train de vivre et mettre en scène.
Et le soi, d'ailleurs, la place de la personne, de l'individu, c'est un élément fondamental à vos yeux de l'émergence de monstruosité. Alors je précise, donc le deuxième chapitre du livre s'appelle « Le soi monstrueux ». Je lis un passage du livre qui vous éclaire sur ce que je viens de dire. « Depuis que l'homme a su et pu se représenter, il ne s'est jamais autant montré ». C'est vrai, notamment via les selfies auxquels vous avez chacun consacré, je crois, un ouvrage. Et il n'a paradoxalement jamais autant usé de masque. C'est-à-dire que, en même temps, on se montre en permanence et en même temps, peut-être que jamais on ne s'est autant caché derrière ce qu'on montre de soi.
C'est une évidence. Dans le cadre de nos recherches sur le selfie, on s'est rendu compte aussi que finalement, rien ne ressemble plus à un autre selfie qu'à un autre selfie. Et que quand on fait un selfie de soi, on ne se montre pas tel qu'on est au fond. Il n'y a pas un désir de projection individuelle, de montrer à voir qui on est. Vraiment, même si ce terme vraiment pour qui on est, c'est un petit peu usité aussi. Moi, je suis personnellement très sceptique sur cette notion un peu new wave de dire qu'on a un moi intérieur véritable qu'il faudrait creuser, chercher. Bon, je pense qu'on est chacun de nous une sorte d'agrégat de passages successifs de plusieurs façons de ressentir les choses, de plusieurs façons de voir, de plusieurs façons de se voir aussi. Mais pour ce qui est du selfie, on ne se montre jamais tel qu'on est parce que voilà, on sait très bien que cette image-là, elle est censée aller sur les réseaux, elle est censée être envoyée. Et en plus, ce n'est pas une image qui est, dans laquelle on est censé se raconter. C'est une image qui est censée statuer d'un moment qu'on vit, que l'on vit, d'une personne que l'on rencontre, d'un endroit dans lequel on est. Et donc du coup, c'est vraiment une image qui devient... C'est André Guntert, hein, ce chercheur qui a fait un très bel ouvrage sur l'image numérique. L'image partagée qui évoque le fait que l'image devient dialogique, c'est-à-dire que l'image devient un moyen de communication et surtout un moyen, et c'est là où on rentre dans le web 2.0, un moyen de communication rapide, instantané et qui finalement n'aura plus vraiment importance mais qui sera qui se complaira dans le futile et dans le dérisoire.
Vous évoquez André Guntert, il était l'invité de l'Atelier des médias en juillet 2015 à l'occasion de la parution de son ouvrage donc sur l'image numérique. On va écouter ce qu'il disait.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les vedettes qui, à Cannes, acceptent le selfie, vous le voyez dans l'image, elles se rapprochent de leur public. Puisque pour faire un selfie, il faut être pas trop loin, il faut être à 30 cm. Et donc, vous voyez deux personnes qui se mettent épaule contre épaule. Et vous voyez bien que c'est un nouveau rapport social et culturel aux produits de la culture, aux références, aux grands de ce monde qui est aujourd'hui véhiculé et créé par l'image.
Et c'est à nouveau le générateur de malentendus, de jugements. Le selfie, c'est l'obsession de soi, c'est le narcissisme, c'est dénigrer, balayer d'un revers de la main, critiquer de manière quasiment unanime par les médias,
par tous ceux qui n'en font pas. Parce que si vous ne faites pas de selfie, si vous ne participez pas à cette expérience sur les réseaux sociaux, comment savoir que le selfie n'est pas simplement une image, c'est-à-dire voilà, qui ressemble beaucoup à celle qu'on voit dans son miroir. Donc oui, si vous la regardez de l'extérieur, ça ressemble à un acte de pur narcissisme. Mais quand c'est vous qui le faites, vous savez qu'en fait le selfie est un outil conversationnel. C'est quelque chose que vous envoyez à quelqu'un en particulier pour lui envoyer un message. Ça va être en général suivi de dénoncer, de formes, de réponses diverses qui peuvent être des stickers, des paroles, et ainsi de suite. Un selfie, c'est très souvent un embrayeur de conversation. Et un selfie sur Facebook, par exemple, ça marche très très bien pour produire une conversation assez longue où on va rire de l'image, se moquer de soi, discuter de tout un tas de choses qui n'étaient pas forcément dans l'image initiale. Ça, c'est impossible de le savoir. Donc il faut, avant de parler des selfies, il faut commencer par en faire.
Alors quand j'ai vu que le dernier chapitre de votre livre était consacré au selfie, j'étais un petit peu dépité. Je me disais, mais c'est quand même un choix étrange, etc. Et finalement, la conclusion de cet article à l'origine sur le selfie explique et éclaire bien et finalement nous remet les idées en place, moi y compris, parce que j'étais un des premiers à dénigrer le selfie, ce que je ne ferai plus grâce à vous. Je vous cite, on va se quitter sur cette citation que vous avez bien sûr le droit de commenter. « Bien au-delà de l'extension de l'autoportrait, le selfie est devenu l'étendard du puissant mouvement d'autonomisation des pratiques culturelles encouragées par la transition numérique. Alors que la circulation des modèles culturels dans le domaine visuel a toujours respecté le schéma top-down de haut en bas, il a exemplairement témoigné de l'inversion de la dynamique en installant au sein de la communication des stars et des grands de ce monde une pratique vernaculaire marquée du sceau de l'espace privé. Loin de réduire son empreinte, le récit narcissique a conduit à faire du selfie une forme culturelle à part entière dotée de significations épocales, politiques, existentielles. Il reste à espérer que ce rare exemple de montée en signification d'une forme visuelle réveille l'intérêt pour un savoir de l'image dont on a pu mesurer l'absence. » Mesurer l'absence du savoir de l'image, c'est une critique assez forte pour dire que finalement on s'intéresse encore trop peu, les chercheurs, les individus, les médias s'intéressent encore trop peu à tout ce que nous racontent ces images et, voilà. Et ces évolutions du monde des images.
On pourrait dire que toutes les bêtises qu'on a dites sur les selfies, et donc par médias interposés, sont une bonne démonstration du fait que nous avons encore énormément de choses à connaître et à découvrir sur l'image, et que maintenant que l'image est un nouveau langage, eh bien c'est aussi un nouvel enjeu pour la recherche et pour les médias que de nous pencher de façon un peu plus attentive et d'essayer de répondre aux questions tout à fait redoutables sur le plan de l'économie culturelle que nous posent ces nouveaux contenus dont finalement nous ignorons beaucoup plus que nous ne savons.
C'était l'historien de l'image, André Guntert, au micro de l'atelier des médias, sur sa vision du selfie, une vision éclairante. Et c'est aussi pour ça que je voulais réentendre André Guntert, c'est que on part d'un sujet, le selfie, qui est facilement critiquable, une pratique qui est très caricaturée. Et ce qui est intéressant dans la démarche d'André Guntert, c'est qu'il montre que ça s'inscrit dans une démocratisation de l'image, que c'est facile de critiquer, mais qu'en fait, il faut en faire peut-être pour apprendre. Et d'ailleurs, vous avez, quand vous êtes assis tous deux dans ce studio, vous avez dit, on vous prévient, nous, on adore faire des selfies, donc on va faire des selfies. Donc, voilà, une réaction sur ce que disait André Guntert, que vous citez dans le livre à plusieurs reprises, c'est pour ça que je voulais le réentendre aussi.
Oui, je pense qu'on n'aura pas la même réaction, Bertrand et moi. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que dit sur un point André Guntert, sur l'aspect dialogique qui vient de la base.
Ce que vous disiez, oui. On discute à travers les images, c'est le côté conversationnel.
Voilà, une nouvelle façon d'échanger, de converser par l'image. Par contre, par rapport à ce qu'il disait sur la proximité corporelle qu'oblige le selfie, et du coup une forme de proximité.
Vous parlez en fait là, de quand on fait un selfie avec une star.
Oui, on est obligé de se coller.
Voilà, on se colle pour. Ouais, ouais.
Et donc qui donne
une idée de proximité.
Une idée de proximité hein, et qui offre un nouveau rapport, je dirais, aux notoriétés. Tout ça, c'est du simulacre. Il ne faut pas oublier que ça reste du simulacre et que. Moi, j'ai appelé ça dans mon ouvrage les selfigraphes, c'est-à-dire les politiques, les stars, mais même le pape qui joue le jeu du selfigraphe. C'est avant tout dans un but intentionnel qui est celui de communiquer sur un déplacement, sur la sortie d'un nouvel album, sur le fait d'essayer de convaincre les jeunes du fait que, entre guillemets, là, je pense à Macron, à Obama ou même à Justin Trudeau, ils sont dans l'air du temps, ils sont cool, accessibles, mais ça reste du simulacre. Je dirais que la verticalité, elle reste.
Moi, dans ce que j'ai entendu, j'ai envie de rebondir un petit peu aussi, dans le sens où c'est finalement le selfie, c'est une belle illustration aussi, et une belle expression de notre monstruosité de tous, notre monstruosité 2.0. Parce qu'en fait, je pense que le selfie, et puis tout ce qu'on met, tout ce qu'on échange sur les réseaux, et cette addiction qu'on a sur les réseaux, et le fait que ça marche autant, je m'interroge jusqu'à quel point ce n'est pas un désir qu'a l'internaute de mettre un petit peu de soi-même dans cet infini un infini un petit peu monstrueux, qui n'a plus de limite, en tout cas qu'on présente comme étant comme n'ayant pas de limite dans ce 2.0. Et quelque part, le selfie, c'est un petit peu ça, c'est mettre... coloniser un petit peu cet espace numérique d'image de soi. Les réseaux sociaux, je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, c'est essaimer sa propre existence de la plus dérisoire, de la plus simple, de la plus banale, jusqu'à la plus extraordinaire dans ces réseaux-là. Et dernièrement, sur France Culture, il faisait un retour sur l'œuvre de Gaston Bachelard. Et il y a une phrase qu'il citait qui m'a beaucoup marqué. C'est donc Bachelard qui disait qu'il n'y avait pas de chez-soi dans l'infini. Et en écoutant ça, je me suis dit, c'est peut-être ça en fait, les réseaux sociaux et le selfie. C'est mettre du chez-soi, du soi dans l'infini. Et quelque part, ça fait de nous du coup des êtres duplices hybrides, parce que on en arrive à être à la fois sur ces deux espaces, l'espace tangible réel devant nous, et puis cet espace digital dans lequel, et jusqu'à certaines fois, ne plus savoir faire les distinctions, et ce qui aboutit à ce qu'on a décrit dans l'ouvrage sous le terme de texistence, donc une existence totalement vécue à travers et même pour la technologie. Et ça, c'est vraiment une part vraiment monstrueuse 2.0 de notre contemporanéité.
Monstre 2.0, l'autre visage des réseaux sociaux. Pauline Escande-Gauquier et Bertrand Névin, c'est publié aux éditions François Bourin. On ne l'a pas évoqué, on n'a pas eu le temps, mais c'est un livre qui termine en donnant quelques conseils. Peut-être en une phrase, ces conseils, Pauline. Donc, c'est du bon sens, en gros, puisque ce livre, en fait, vous ne dites pas clairement, mais ça s'adresse beaucoup aux plus jeunes, ou en tout cas aux parents.
Premier conseil, c'est en parler avec, c'est-à-dire quand vous équipez votre enfant d'un smartphone, il faut l'éduquer sur ces nouveaux langages, en fait.
Essayez, parce que c'est facile à dire, mais ce sont des langages en perpétuel changement.
En parlant, en disant, qu'est-ce que tu postes, montre-moi, etc.
Parce que souvent, les plus jeunes ont plus de choses à apprendre aux plus âgés aussi dans ce domaine. Enfin, beaucoup de choses à apprendre.
Hein. Sur la technique, effectivement. Mais sur ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est le respect de l'autre ? Qu'est-ce que c'est le harcèlement, etc. Là-dessus, les parents ont beaucoup à apprendre aussi aux enfants.
Donc en parler, voilà.
Merci
d'être venu parler à ce micro. Monstre 2.0, l'autre visage des réseaux sociaux, édition François Bourin. À bientôt. L'atelier de cette semaine a été préparé par Laurent Salerno, Simon Decreuse, Léo Caravagna, Mathilde Saliou, Camille Deloche et Ziad Malouf. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.